Le Grand Matin Sud Radio, 6h-7h, John Racotozafi.
Il est 6h02, on est en direct sur Sud Radio jusqu'à 7h pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée de Philippe David et Marilyn Hérault avec un programme encore musclé ce matin pour les fêtes. Et oui, puisqu'on continue de débattre avec nos invités et avec vous, on parlera ce matin notamment de ce forfait patient qui va être mis en place aux urgences à partir du 1er janvier. Vous en avez peut-être entendu parler, un forfait de 20 € à régler là-bas. Alors, est-ce que vous comprenez cette décision qui a été prise par le gouvernement? Vous commencez déjà à voter directement sur le compte Twitter de Sud Radio, oui ou non, et pour l'instant c'est non à 74%. Vous continuez de voter et puis surtout à nous appeler par téléphone 0800 26 300 300. On va profiter ensemble des meilleurs moments de vos émissions préférées sur Sud Radio jusqu'à 7h avec Valérie Expert et son invité de l'œil de l'expert à propos d'un livre qui va faire beaucoup parler. Un animal pour nous gouverner tous. Livre qu'on va aborder dans le prochain quart d'heure, ça sera juste après. Philippe Brindel, qu'on retrouve cette semaine avec les vraies voix entre 17h et 20h sur Sud Radio. Il recevait hier avec toute la bande une nouvelle candidate à la présidentielle. Il s'agit d'un parti plutôt méconnu, le parti animaliste. Écoutez ça maintenant sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio.
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez les petits oiseaux prisonniers.
Pierre Perret.
Ah oui.
Ça fait du bien, Philippe Bilger, hein?
Là, Pierre Perret, certainement, en tout cas.
Ah oui. Oh, je vous vois venir.
Ouais. Alors, nous voyons. On n'a pas parlé du zizi. Hein.
Oui, voilà, il y avait aussi. Il y a tellement.
Bah là, vous êtes tout de suite censuré sur Facebook. Là.
Ah oui.
Bon, alors, nous accueillons et je la remercie de nous accorder un peu de son temps. Hélène Touy, candidate du Parti animaliste à l'élection présidentielle 2022. Alors, ne souriez pas. Sachez que le Parti animaliste s'était présenté aux législatives 2017, 1,1% des voix. Aux européennes 2019, 2,2% des voix. Le PC était à 2,49, l'UDI à 2,5, c'est dire quand même. Et dans un dernier sondage IFOP paru en novembre, 2% des intentions de vote devant Montebourg, Poutou, Lassalle, Artaud. Pas mal, encourageant, n'est-ce pas, chère possible candidate, parce qu'il faut quand même les 500 signatures. Bonsoir Hélène Touy.
Bonsoir.
Bon, je voudrais tout de suite être clair parce que c'est facile de provoquer. D'ailleurs, je rappelle le principe de notre sondage. Vous êtes tous invités à participer et à donner votre avis sur le compte Twitter de Sud Radio. La question, c'est le parti animaliste apporte-t-il au débat démocratique? Je précise tout de suite que vous n'avez pas un programme à proprement parler. Je ne vais pas vous poser une question sur l'économie, sur les questions régaliennes. C'est vraiment une thématique, c'est ça, hein?
Alors, nous, notre objectif, c'est effectivement de faire de la question animale un enjeu majeur de cette élection présidentielle et de mettre la question animale à l'agenda politique des 5 prochaines années. Donc, on a choisi effectivement de se focaliser sur la question des animaux.
Mais est-ce bien raisonnable? Parce que quand on se présente en tant que... Enfin, vous avez... Excusez-moi, c'est pas vous manquer de respect, mais officiellement, vous avez une chance d'être présidente de la République. Si jamais par je ne sais quoi, mais vous vous y retrouvez, on est bien d'accord, on fait de la fiction, je le sais, mais il y a quand même quelque chose à penser. Donc, soit on y pense, soit on n'y pense pas, mais du coup, on ne se présente pas.
Bah, dans ce cas-là, il faudrait dire tenir les mêmes propos à quasiment la totalité des candidats. Nous sommes réalistes, nous savons que nous ne serons pas élus président de la République, que je ne serai pas présidente de la République, mais pour autant, nous pensons que nous avons une place importante à jouer dans ce débat. L'élection présidentielle, c'est l'élection majeure de notre démocratie, c'est celle qui permet de faire émerger des courants d'idées, des courants qui ne sont pas représentés et qui sont pourtant chers aux Françaises et aux Français. Et donc, nous avons toute notre place, la question animale a toute sa place dans cette élection présidentielle.
Je souhaite, Hélène Touy, évidemment, bon, on fait ça sérieusement parce que c'est officiel, votre candidature. Simplement, je veux aussi qu'on reste souriant. L'histoire de l'affiche, donc, en 2017, pour les législatives, c'était un chat. En 2019, pour les européennes, c'était un chien. Vous ne savez pas encore quel animal pour les présidentielles 2022, vous nous le confirmez? Par oui ou
tout
par non.
Tout à fait, c'est en cours de discussion.
Alors, oui. Vous me voyez venir, je fais le tour de table. Oui, mes vraies voix autour de la table. Quel animal éventuellement? Allez, mouillez-vous.
Voilà, allez, moi j'ai un cochon.
Un cochon.
Oui, un petit cochon.
Pourquoi ?
Bah, parce que, vous savez, il y a des gens qui adoptent des cochons, et des petits cochons nains, et c'est des animaux de compagnie. Alors, bah, on n'est pas habitué, parce que le cochon, on voit souvent arriver à la charcuterie. Mais pourquoi pas ouais. Puis bon, ça a bercé mon enfance. Hein, Aglaïs et Denis, il y a un petit cochon, vous voyez.
Oui, Aglaïs et Denis.
Oui, ouais, mon époque, parce que
pas
vous avez
si
sorti,
jeune, pas si jeune,
vous ouais. avez sorti La Cage aux Oiseaux. Ça m'a replongé dans mon enfance, et ça m'a fait ressortir de plein de souvenirs. Mais moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les animaux.
Oui,
et je
oui.
pense que les animaux doivent être un sujet justement sérieux.
Oui, effectivement.
Et au centre d'un débat politique. Et ils sont les bienvenus, je trouve.
Et vous savez, puisque c'est ma première, ben j'en profite pour dédier cette émission à Lenny, qui est mon petit chien.
Oh ben. Ben, la mienne, Nikki, je lui dis bonsoir. Ouais, elle, ben, elle voilà. a 15 ans, elle va très bien. Petit Jack Russell, voilà.
Ouais, sympa. Bon. Philippe Bilger, quel animal sur l'affiche ?
Alors, moi, une belle vache. Mais vraiment, j'adore les vaches. Quand mes enfants étaient petits, je leur disais, regarde les vaches, mais je voudrais, à quel moment j'aurais le droit d'être un tout petit peu sérieux,
on va Frédéric, y venir.
sur ce problème animal.
On va y venir parce qu'en plus, le choix d'accord. de vos animaux n'est pas anodin. Je termine avec Abdoulaye Kanté.
Après, je vais parler d'un animal, mais après, vous êtes sûr de perdre l'élection si je dis le pangolin.
Ah
là, par contre, oui, effectivement, je pense que c'est un animal en ce moment qui nous a posé beaucoup de problèmes pendant ces deux dernières années. Donc, si vous mettez ça en campagne d'affiche, vous êtes sûr de ne pas avoir de voix du tout.
Alors, mais, mais des choix pertinents.
Ouais.
Un qui ne se mange pas, et on l'a bien compris, parce que ça met la planète en l'air. Et deux qui se mangent. Et c'est bien le souci. Vous êtes, chère Hélène Thouy, depuis l'âge de 7 ans, vous ne mangez pas de viande. Alors, on appelle ça parce qu'il y a plusieurs termes. Ça veut dire, vous mangez quand même du poisson. Qu'est-ce que vous êtes exactement ?
Alors, moi, personnellement, je suis végane, donc je ne
vous
consomme
vegan,
aucun
d'accord.
produit de rue. Voilà. Mais, j'étais pendant de nombreuses années végétarienne. Et à
voilà, végétarienne.
J'ai commencé à être végétarienne.
Voilà. Donc,
aujourd'hui, je suis végane.
Ok. Donc, clairement, ça y est, nous y sommes. On devient sérieux, même si c'était sympa. Vous êtes pour exclure toute consommation d'animal ?
Non, absolument pas. Ce n'est pas au programme du Parti Animaliste, même si à titre personnel, et moi je ne consomme pas d'animaux, et puis d'autres personnes du Parti Animaliste ne consomment pas d'animaux, il y a aussi des personnes qui consomment des animaux. Nous, ce que l'on porte comme message, c'est que l'on veut rassembler toutes les personnes qui sont sensibles aux animaux et travailler ensemble à améliorer le sort des animaux. La façon dont on traite les animaux est un sujet qui nous préoccupe tous. On mange des animaux dans des conditions qui sont complètement démentielles, on les enferme dans des bâtiments, ils ne voient même pas la lumière du jour, si ce n'est le jour où ils partent à l'abattoir. En tout cas, c'est le cas de 95% des cochons, puisque monsieur parlait des cochons tout à l'heure. Et donc, ce que l'on dit, c'est que l'on ne peut pas continuer dans ces conditions. Il n'y a pas l'interdiction de consommation de produits d'origine animale au programme du Parti Animaliste. En revanche, il y a la fermeture des élevages intensifs.
Vous avez 5000 adhérents. Il y a même une structure de jeunes hein, du Parti Animaliste qui s'appelle le Campus Animaliste. Et vous êtes finalement très implanté sur des régions où, d'ailleurs, l'électorat se confond un peu avec celui du Rassemblement National. Ça ne veut pas dire du tout hein, que vous partagez les mêmes idées. Je n'ai pas dit ça. Simplement, vous êtes présent par exemple en Lorraine, dans Seine-et-Marne, dans les régions désindustrialisées. C'est-à-dire que finalement, chez des gens qui sont un peu revenus du discours politique et qui cherchent comme une échappatoire, et votre discours leur plaît, c'est ça ?
Alors, il y a plusieurs. D'abord, parce que la cause animale, elle est diverse et elle rassemble des personnes très diverses, de toute origine, de toute catégorie sociale, des femmes, des hommes, de tous les âges. Ce qui est intéressant avec ce que vous venez de dire, c'est que souvent, on a le cliché du bobo citadin qui serait finalement l'étiquette animaliste. Et en fait, c'est faux. Toutes les personnes, la plupart des personnes sont sensibles aux animaux, quelle que soit leur catégorie sociale. Et chez les personnes en grande précarité aussi, il y a des personnes qui sont sensibles aux animaux. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est une des dernières causes qui rassemble les personnes par-delà toutes les différences.
Une réaction d'un auditeur.
Pardon,
il y a un auditeur en période de fête, on l'accueille avec plaisir.
Non, cher Philippe. Non, il y en a plusieurs. D'accord. Et en plus, celui-ci est très important puisque c'est mon premier.
On va le choyer.
C'est Philippe d'Arles. Bonsoir, Philippe.
Encore un Philippe.
Ah, il revient en force.
Bonsoir.
Bonsoir.
Votre avis, vous vouliez réagir ?
Oui, alors, moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète le plus, évidemment, je suis un partisan de la défense de la cause animale. C'est un des graves problèmes que notre société finira par payer très cher un jour. Et peut-être bien, d'ailleurs, que l'origine du virus est quelque part...
Oui.
Par notre système de consommation et d'élevage.
Exact, c'est pour ça que le choix d'Abdoulaye Kanté tout à l'heure sur le pangolin était tout sauf anodin.
Mmh. Ouais. Voilà. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, il y a le livre d'Arnaud Benedetti, que vous connaissez tous.
Oui, rédacteur en chef de la publication politique législative. Voilà. Ouais.
Et qui dresse un portrait au vitriol de tous les présidents de la République française qui n'ont fait que de faire que ce pays régresse. Je suis désolé de le dire, ce pays régresse.
Mais sur la cause animale ou plus généralement ?
Non, sur la, en général.
D'accord. Mais la cause animale, vous, ça vous inspire quoi ?
Ben, je pense que c'est bien. Elle n'a aucune chance, elle le sait très bien. Mais ça prouve dans quel état de déliquescence est notre démocratie. On est obligé de se présenter à la présidence de la République, sachant qu'il faut 500 voix, ils sont tous mis sous cloche parce qu'ils ont tellement peur, ils sont tellement matraqués par le pouvoir d'en haut, les pauvres maires, qu'on leur fait un chantage à la signature. Alors déjà, il faudrait commencer par faire en sorte que les signatures soient anonymes.
Ouais. Et merci Philippe, effectivement, et en fait c'est Philippe qui nous recentre dans notre débat, parce que c'est vers là que je voulais aller finalement. Bon, déjà la question, et puis on va peut-être vous libérer Hélène Touy avant d'en débattre avec nos vraies voix, mais la grande question maintenant, ce sont les 500 voix. Vous êtes confiante ou non ?
Alors bien sûr, nous sommes optimistes, mais c'est un travail qui est très difficile. On avance tous les jours, on a tous nos militants qui sont mobilisés, qui font un travail formidable. Mais comme l'a dit monsieur, le problème de la levée de l'anonymat des parrainages, ça induit beaucoup de pression sur les maires. Je voudrais dire que les maires ont un pouvoir immense pour respecter et pour faire vivre le pluralisme politique. C'est notre démocratie qui est en cause, et en refusant de parrainer des candidats, puisque c'est de ça dont on parle, 2/3 des maires en 2017 ont refusé de donner un parrainage à quelques candidats que ce soit, et je crains qu'on s'oriente dans des statistiques aussi importantes, si ce n'est plus importantes. On a un vrai problème d'asphyxie de la démocratie, et donc il faut que les maires prennent ce pouvoir qu'ils utilisent pour permettre au débat démocratique de s'exprimer, à des courants d'émerger.
Philippe Brindel et les vraies voix qu'on retrouvera d'ici moins d'une demi-heure sur Sud Radio. Les débats des vraies voix retrouvés en intégralité en podcast ou sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Allez, on reste dans le domaine animal à 6h14. Comme je vous l'ai dit, on a un livre qui a passionné Valérie Expert et dont on va parler dans le prochain quart d'heure. Ça sera dans l'œil de l'expert, ça s'appelle Un animal pour nous gouverner tous. Et on aura l'occasion d'écouter une interview de son auteur dans un petit peu moins de 2 minutes sur Sud Radio. Tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 6h-7h, John Rakotozafi.
Il est 6h16, c'est un plaisir de vous réveiller pour les fêtes sur Sud Radio avec un beau programme encore dès 7h avec Philippe David et Marie-Line Hérault. On aura faim, je vous préviens, puisque nous aurons un artisan pâtissier dans les Landes, j'en salive d'avance. Ça sera aux alentours de 7h15. On répondra évidemment à toutes vos questions, hein, et notamment à propos de nos questions du jour, puisqu'on parle du conseil de défense qui a eu lieu hier pour freiner l'évolution du Covid-19. Et d'ailleurs, eh bien, on attend vos réponses à notre question du jour directement sur notre compte Twitter. Mais avant ça, l'œil de l'expert, c'est maintenant avec Valérie Expert qui reçoit ce matin l'auteur du livre « Un animal pour nous gouverner tous ». Un sujet insolite mais passionnant à découvrir sur Sud Radio.
C'est Lucas Jakubowicz, bonjour, on vous connaît bien sur Sud Radio puisque vous venez débattre régulièrement avec nous à 11h moins le quart. Vous publiez « Un animal pour les gouverner tous », comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler, c'est chez Arquet. Et je me demande comment personne n'a eu l'idée de faire ce livre avant, parce que c'est tout à fait passionnant. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Comment vous avez eu l'idée de vous intéresser à ça, de voir comment les politiques utilisent leurs animaux, les chiens pour la plupart du temps, pour leur image politique?
Alors l'idée, elle est née en novembre 2019. En novembre 2019, pour ceux qui s'en rappellent, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un avait posé une photo un peu ridicule pour nous les Occidentaux.
Non.
Donc, il était petit, gros, ouais, avec une coupe de cheveux un peu bizarre, ouais, sur un cheval majestueux, ouais, pour montrer à quel point il était puissant et c'était un dictateur qui devait en fait incarner là une forme de royauté. Le même jour, Emmanuel Macron s'est fait prendre en photo, je crois, c'était un jour équivalent, en caressant un bébé chèvre.
Ouais.
Je me suis dit, c'est bizarre, en fait, on a l'impression que d'un côté, ouais, les dictateurs vont utiliser les animaux pour se mettre en avant, ouais, pour, ouais, montrer leur puissance, leur pouvoir. Et dans les démocraties, en fait, on va essayer de mettre en avant un animal mignon, chou, pour amadouer les lecteurs.
Ouais.
Après, je me suis amusé à regarder un peu sur tous les hommes politiques. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière pratiquement chaque dirigeant, il y a un animal.
Il y a un animal.
Et en, En regardant, je me suis rendu compte que certains auteurs avaient traité le sujet, mais parfois de manière symbolique, par exemple Pastoureau avec les animaux au Moyen-Âge, parfois de manière sémiologique, mais jamais dans un angle grand public. Donc je me suis lancé pendant le deuxième confinement.
C'est vraiment un livre très très plaisant à lire, amusant, intéressant, parce que vous partez des États-Unis, on revient en France, et après on part du côté des dictateurs. Alors ça, j'avoue que c'est une partie qui est tout à fait fascinante. Peut-être les États-Unis, le seul président à ne pas avoir de chien, c'est Donald Trump. Nos dogs, ils ne les aiment pas les chiens. Et on le voit, vous avez relevé, c'est ça qui est intéressant, dans sa sémantique, quand il insulte quelqu'un, il y a souvent le mot dog qui revient.
C'est ça. Alors, c'est son insulte favorite, mais depuis qu'il est homme d'affaires, hein, il est assez. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il radote ou si c'est parce qu'il n'a pas de vocabulaire, mais il traite souvent les gens de chiens. Ouais. Et effectivement, il n'a jamais mis de chien en avant. Ouais. Et par exemple, il avait dit en public, mais de quoi j'aurais l'air avec un chien en laisse sur la Maison Blanche. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que pendant la dernière campagne présidentielle, Joe Biden, lui, s'est mis en avant avec ses chiens, des bergers allemands,
Absolument. Et
a critiqué Trump en disant « c'est le seul président depuis plus d'un siècle à ne pas avoir eu de chien ». Et là, on était vraiment dans de l'instrumentalisation, parce que si on se rappelle les avant-dernières élections, l'avant-dernière élection présidentielle aux États-Unis, en fait, Donald Trump a gagné des États un peu ouvriers, blancs, dans ce qu'on appelle la « Rust Belt », et Joe Biden, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, s'est rendu compte que les chiens les plus populaires dans ces États, c'était les bergers allemands. Et deux mois avant d'entrer en campagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé adopter un bébé berger allemand dans une SPA, dans l'État dont il est élu.
Et effectivement, il y a ce paradoxe qui est de dire que les propriétaires de chiens aux États-Unis, ce que vous racontez dans le livre, parce qu'il y a de l'analyse politique, c'est au-delà de l'anecdote, les propriétaires de chiens sont plutôt des républicains, alors que, et dans ces états-là, on a plutôt voté pour Trump, mais il a gagné sur le plan peut-être des plus jeunes, c'est ça, qui aiment les animaux et ont voté donc pour Biden.
En fait, les chiens, c'est plutôt des animaux surreprésentés aux États-Unis dans les ménages blancs, parce qu'ils sont eux-mêmes surreprésentés dans ceux qui ont des maisons, de l'espace et dans les zones rurales. Alors effectivement, Joe Biden a gagné des voix dans l'électorat blanc à la dernière présidentielle. On ne sait pas si c'est 100% lié aux chiens, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ça n'a pas eu d'impact négatif. Ouais. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le Sénat américain a basculé à une voix près, pratiquement, dans le camp démocrate. Et là, on est en mesure de dire que, quelque part, c'est grâce à un chien.
Ouais. Allez-y.
Alors, en fait, c'est un siège qui est, je crois, en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta. Alors, il y avait une candidate qui était ultra-trumpiste, qui était contre un évangélique noir américain, donc qui était un pasteur. Alors, impossible pour le pasteur, en fait, d'attaquer la femme blanche, parce que ça se fait pas, en fait, pour séduire les classes moyennes en Géorgie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en scène pendant toute la campagne avec un beagle.
Ouais.
Donc, c'est un chien mignon. Et ça lui a permis, effectivement, d'avoir la majorité des voix dans les banlieues, on va dire, blanches et classe moyenne d'Atlanta, notamment.
Alors, il y a beaucoup de choses dans le livre. Pour revenir à Trump, parce que je rouvre le livre, ses enfants, vous dites, le désamour complet de Trump pour la faune semble partagé par sa progéniture. Et effectivement, ses enfants, Donald Jr. et Eric, se font photographier avec des animaux, mais morts.
Voilà.
C'est pas très populaire.
Non, c'est pas très populaire, mais Donald Trump, qui est quand même un animal politique, avait réussi à renverser la tendance en disant oui, bien sûr, il pose avec des animaux morts, mais ça prouve qu'ils sont adhérents à la NRA, donc l'Association des armes à feu, et que donc c'est des bons Américains, et que par extension, moi je suis un bon Américain, votez pour moi, et ça a marché.
Vous parlez de dog communication, c'est-à-dire de la communication par le chien. Alors on ne sait pas si ça a un effet bénéfique, mais en tout cas vous dites que ça agit sur l'inconscient, et en particulier en France, là aussi vous revenez en France sur le Labrador, qui est une sorte de chien fétiche des présidents.
Oui, parce qu'en fait le Labrador, c'est le chien familial par excellence. S'occuper d'un Labrador, ça demande du temps. Donc ça prouve à la fois, quand on a un Labrador, qu'on est proche du peuple et qu'on est empathique. Et d'ailleurs, tous les présidents de la République, enfin pratiquement tous, ont eu un Labrador au cours de leur mandat. Le dernier en date, c'est évidemment Emmanuel Macron, qui est un chien croisé, Nemo, qui a du sang Labrador.
Et Emmanuel Macron, vous nous l'aviez dit, qui a escamoté son chien, le chien qu'il avait avant d'être président de la République, qui faisait pas très... C'était pas terrible parce que c'était un dog, c'est ça, un dog
c'est
argentin.
C'est ça. En fait, quand Emmanuel Macron s'est vraiment lancé dans une carrière politique nationale, il était à Bercy. Il a fait venir Paris Match au Touquet chez lui. Et là, il posait avec le chien Tiffany Macron, donc sa belle-fille. C'est un dog argentin, vraiment spécialisé dans la chasse aux pumas, qui est vraiment féroce et qui a l'air assez patibulaire et qui en plus s'appelle Figaro. Donc c'est pas très Startup Nation, c'est pas très en même temps.
Non.
Et donc c'est vrai qu'une fois qu'Emmanuel Macron a été réélu, il a plus communiqué avec Figaro, mais il a adopté, comme Joe Biden, un chien dans une SPA. Et comme par hasard, il avait du sang labrador.
Ouais, alors bon, il y a tout un chapitre sur le salon de l'agriculture. Il y a aussi Gérald Darmanin, alors ça m'avait échappé, qui lui a beaucoup communiqué avec son chat.
Oui, Boris.
Boris. Absolument. Et Boris, alors moi, ça m'avait totalement échappé. C'est pour ça que c'est vraiment... quand on lit le livre, on se dit, mais c'est incroyable, quoi. Tout ce,
ici,
c'est...
Et en, alors en plus, c'est théorisé hein, dans le
oui,
livre.
Oui, parce
je
qu'il
le
dit,
cite,
mettez des photos de chats et de chiens. C'est le conseil que donne Gérald Darmanin à ses troupes.
Je cite en fait un article du Canard Enchaîné qui revient sur une réunion des ministres donc, du gouvernement Édouard Philippe. À cette époque-là, c'était le début de la réforme des retraites. Ils étaient assez... impopulaire. Et donc Gérald Darmanin, qui malgré son jeune âge est quand même un politique expérimenté, a dit à ses collègues, écoutez, arrêtez de communiquer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, avec des trucs compliqués, technocratiques, faites simple, adoptez un animal, mettez-le en avant, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux.
Ouais, alors, toujours en France, parce que je voudrais qu'on parle quand même de nos dictateurs, des dictateurs, vous, ça, j'avais aussi, ça m'avait échappé, le député LR Dino Cinieri, qui a déposé un amendement pour interdire de faire figurer la photo d'un animal sur les affiches et les bulletins de vote.
Oui. Alors, en fait, en France, ça, c'est très dingue. Peu connu, mais il y a un parti qui s'appelle le Parti Animaliste. Ouais. Et sur ces affiches, en fait, ils ne sont pas incarnés par des êtres humains, mais par des animaux. C'est-à-dire que pour voter Parti Animaliste, ils mettent sur l'affiche, pas la tête de la tête de liste,
chien,
mais par exemple,
un, chat,
un écureuil, un chien, un chat. Donc, quelque part, c'est vraiment le stade ultime de la communication avec les animaux. Et d'une certaine façon, ça marche, parce que quand on regarde les dernières élections donc, qui étaient avec le Parti Animaliste, les élections européennes, le Parti Animaliste, hein, il faut le dire, a eu plus de voix que tous les partis pro-Frexit réunis, c'est-à-dire Asselineau et Philippot. Ils ont presque eu autant de voix que le Parti communiste.
Oui, c'est absolument passionnant. Et vous dites qu'aujourd'hui, L214, l'association de protection, enfin de qui dénonce les sévices aux animaux, a créé un observatoire politique et animaux.
Oui, et pour être élu dans certaines villes, c'est ce que j'ai montré aux dernières municipales. Il vaut mieux en fait respecter les préconisations de L214 parce que cette association a un impact, en tout cas sur les élections maintenant.
Alors pourquoi est-ce que les tyrans, les dictateurs ont des zoos ? Alors ils ont tous des zoos avec des animaux.
Pas tous, mais
pas
beaucoup.
Pas tous, mais beaucoup, oui.
Alors c'est le fruit de l'histoire. En fait, je pense que le fantasme ultime d'un dictateur, c'est de ressembler au plus grand, on va dire, dictateur ou tyran de l'histoire. Alors ça peut être les sultans, les califes, les empereurs romains, les monarques absolus en France, et tous avaient des zoos privés.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait une ménagerie à Versailles, les empereurs romains faisaient venir des animaux pour les faire combattre dans l'arène, etc. Et aujourd'hui, alors c'est un peu ridicule, parce que parfois des dictateurs de tout petits états ou de toutes petites nations, je parle de la Tchétchénie, par exemple.
Le Turkménistan aussi. Mais la Tchétchénie, oui, c'est...
Oui, alors, le Turkménistan, ils n'ont pas de zoo privé, à ma connaissance. Ils ont des chevaux.
Ouais.
Mais par exemple,
c'est en Tchétchénie dont vous parlez. C'est lequel a mis des plaques en or sur ces animaux ?
Alors ça, c'est encore différent. Ça, c'est en Ukraine.
Ah,
c'était bizarre, parce que l'Ukraine se veut comme une démocratie. Incroyable. Mais leur président, au moment de la révolution de 2014, on a découvert qu'il était totalement corrompu. Quand la foule est entrée dans sa maison, en fait, on a trouvé un zoo privé avec effectivement sur chaque cage des plaques en or avec le nom des animaux. Et ça lui a porté préjudice parce qu'en fait, il disait non, mais moi, je suis un démocrate, etc. Et en fait,
quand on voit le salaire moyen par rapport, il a été.
Oui, et puis on se rend compte en fait qu'il a le comportement des pires tyrans du monde et ça a précipité sa chute.
Valérie Expert et son invité de l'œil de l'expert Lucas Jakubowicz. Tout à l'heure, dès 10h, on aura l'occasion de recevoir un invité média que Marilyn Hérault adore. On a parlé dans la rédaction. C'est Christina Cordula. C'est les meilleurs moments du 10h midi média avant de retrouver en direct Christine Bouillot. Ça sera pour les débats avec vous. Vous restez dans le prochain quart d'heure. Rémi André arrive sur Sud Radio avec la météo et puis on fera un point sur votre actualité.
Le Grand Matin Sud Radio, 6h-7h, John Rakotozafi.
Et nous sommes le mardi 28 décembre 2021. Oui, oui, c'est la dernière ligne droite de cette année qui est passée extrêmement vite. Et parmi les personnalités qui ont marqué cette année, il y a bien sûr Jean-Pierre Pernaut. Il a récemment pris sa retraite du JT de 13h de TF1 et il a annoncé publiquement avoir un cancer. Judith Belair a eu l'occasion de le recevoir sur Sud Radio avant cette annonce. Et on revient avec lui sur sa carrière incroyable. C'était dans C'est excellent au mois de septembre.
Jean-Pierre Pernaut, je vous resitue un petit peu pour mes auditeurs quand même, il y a quelques trucs à dire. Vous avez entre autres expérience excellente, débuté chez TF1 dès la création de la chaîne en 1975.
Le 6 janvier 1975, le jour de la création.
Quand même, hein. Et vous avez été, arrêtez-moi si je me trompe, successivement directeur adjoint de l'info, chef adjoint du service reportage, avant d'y prendre la présentation du journal de 13h en 88, hein, ce jusqu'en 2020. Ouais. Vous avez été aussi rédacteur en chef de nombreuses émissions de la chaîne. Vous avez gagné 3 sets d'or.
4.
4. Ah.
4. Même 5.
J'en ai raté
un. Je crois qu'il y en a eu 5. Il y en a eu 4 comme meilleur présentateur de journal et 1 pour l'émission Combien ça coûte.
C'est ça. Alors justement, j'allais venir. Votre émission Combien ça coûte, elle a duré 19 ans.
Oui.
Incroyable quand même.
Ça a été l'une des plus longues émissions de l'histoire du PAF à l'époque. Aujourd'hui, on n'y pense plus parce que ça s'est arrêté en 2011.
Ouais.
On a démarré en 1991.
C'est ça.
Et c'était une émission produite par Christophe de Chavannes où on avait des coups de gueule sur l'argent. C'était vraiment un peu ce que je fais aujourd'hui sur LCI, mais avec des tout petits moyens. Avec de Chavannes, c'était un prime time. On a été jusqu'à 12 millions de téléspectateurs.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Ça a été une émission mensuelle pendant 19 ans.
Et c'est quoi la raison du succès alors de cette émission et
Combien ça coûte ?
Ouais.
Parce que la France est un pays de râleurs. Et que c'est une émission qui me ressemblait un petit peu, que de Chavannes est un râleur aussi. Et qu'on râlait dans l'émission. On râlait parce qu'on n'aimait pas payer des impôts pour rien. On râlait quand on découvrait beaucoup d'argent public gaspillé. Vous savez, des ronds-points. La France est le champion du monde des ronds-points.
Ah bon, on l'a découvert avec les Gilets jaunes, effectivement.
Oui.
Ouais.
À l'époque, ça finançait les partis politiques parce qu'on finance on paye un rond-point 1 million d'euros. Bon, à l'époque, c'était des francs, 1 million de francs, ça coûte 100 000, et entre deux, les 900 000 partaient sous forme de fausses factures dans les caisses des partis politiques. Maintenant, c'est fini, mais on continue à en construire, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin bon, on est les champions du monde des ronds-points, on s'amusait avec ça, il y avait des remontées mécaniques sur des versants de montagne où il n'y avait jamais eu de neige, des ponts sans route, des routes sans pont. La France était un pays de gaspillage qu'on montrait dans Combien ça coûte. Les élus, maintenant, font beaucoup plus attention qu'autrefois.
Oui, parce qu'ils sont un petit peu plus vus aussi, a priori,
oui,
avec les
ils sont
réseaux,
vus,
etc.
On peut plus faire de bêtises maintenant avec les réseaux sociaux.
Il y a des gens qui disent que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur. Vous êtes d'accord avec ça ?
Non, pas forcément. Non, pas de mauvaise humeur. Un peu râleur. T'as qu'on aime bien ? Non, on est Français, franchouillard, Français, fier de l'être, et zut, quoi.
Et alors, la raison de votre succès auprès du public, c'est votre proximité avec ces gens, donc à
je
qui vous parlez
pas.
Tous les jours, vous pensez ?
Je sais pas la raison. Le succès du 13h, ça a été la mise en place de ce réseau de correspondants en région.
Justement, j'allais venir. Ouais.
Aujourd'hui, on a 19 bureaux avec 150 journalistes en région. Quelques-uns d'entre eux sont encore des gens avec qui on a créé.
J'avais noté 500 journalistes, moi.
Non, 500 en tout, avec les journalistes de Paris, de la rédaction parisienne, les correspondants en région, correspondants à l'étranger.
Ouais.
En région, on a à peu près 150 journalistes.
Et c'est vous qui avez créé ce concept, hein, justement. Ouais. Vous faites partie de ceux qui ont dessiné le paysage de l'audiovisuel français, je l'ai dit vraiment, mais tel qu'il est aujourd'hui, parce que l'invention du correspondant en région, c'est vous, ça n'existait pas avant, en fait.
Oui, on m'a traité de fou. Ouais. Les radios avaient les grandes radios avaient des correspondants
mais
en
pas
région.
La télé.
Moi, les télévisions, jamais. Les télévisions parlaient de la météo quand il neigeait sur le pont de l'Alma à Paris, mais ne parlaient pas de l'énorme tempête qui a détruit la forêt de Brocéliande en Bretagne en 1987. Il n'y a pas eu un mot dans les médias nationaux. Donc moi je suis arrivé avec cette idée native d'Amiens. Je n'en pouvais plus d'être bloqué dans la neige à Amiens, mais les télés parisiennes, n'en parlaient pas, les télés nationales. En revanche, on parlait du mauvais temps aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai créé ce réseau de correspondants en région avec des journalistes passionnés, la plupart venant de radio régionale d'ailleurs. Et voilà.
Qui sont passés de la radio à la télé.
Qui sont passés de la radio à la télé. On a inventé le métier de correspondant régional d'une chaîne nationale. Il y avait France 3, enfin à l'époque
oui,
ça s'appelait l'ORTF, mais les gens travaillaient pour le journal de leur région. Nous,
oui,
on a créé
ça,
ce métier, travailler dans une région pour intéresser les gens de l'autre bout de la France à ce qui se passe dans notre région.
Alors j'ai appris aussi que vous avez été le seul présentateur du journal télé à officier sans prompteur.
Oui.
C'est très étonnant ça.
Non, c'est pas étonnant parce que j'ai succédé à un monsieur extraordinaire qui s'appelait Yves Mourouzi, qui ne préparait pas son journal et qui arrivait, qui improvisait tout.
Il préparait
tout,
pas,
etc.
Lui, carrément.
Non, il préparait pas, il avait tout dans la tête et il l'avait merveilleusement bien. Et quand j'ai succédé à Mourouzi, avec qui j'avais eu la chance de travailler pendant 3 ans, à 13h, il n'avait pas de prompteur parce que l'actualité se fait en direct. Donc il y a des journalistes qui écrivent leur texte. texte et qui disent « Oh, j'apprends à l'instant qu'on sort du prompteur par moment ». Donc on sortait tout le temps, donc moi je ne sors pas tout le temps, j'y vais pas du tout, donc ça permet d'improviser.
Ce qui vous permet un peu d'impro quand même.
Ouais, ça permet d'improviser, ça permet de vivre les reportages et de ressentir les choses quand on les présente, comme si on était téléspectateur. D'ailleurs, on est téléspectateur, je regardais les sujets, si un reportage me provoquait de l'émotion, ça se sentait, ça se voyait après le reportage. Je ne suis pas un animal froid qui débite des dépêches, je suis quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui s'extasie, qui râle parfois, et c'est ça qui faisait voilà, ma personnalité au journal.
Est-ce que c'est pas un peu glaçant de sauter comme ça, s'enfiler quand on fait de la télé, parce non. Parce que quand même, vous écrivez tout quand même.
Oui, mais j'écrivais les textes du journal parce que ça doit être un peu calibré quand même pour raisons de temps.
C'est quoi votre gilet de sauvetage en cas d'erreur ou de...
En cas de panne, pas de grosse panne, mais de raconter comment on fait le journal ou de raconter tout simplement l'actualité telle qu'on la connaît.
De rester soit très détendu et de surtout
pas... Faut toujours être détendu, faut toujours respirer un grand coup. Il peut y avoir des pannes à tout moment, il y en a eu. Et puis il y a des moments où, quand on est journaliste de télévision ou de radio, quand un énorme événement vous tombe dessus, il faut pouvoir tenir l'antenne parfois pendant des heures. Ça m'est arrivé à la mort de Johnny Hallyday. On a resté 7 heures à l'antenne, je crois.
En
impro total, ça m'est arrivé pendant les guerres en Irak. Les guerres en Irak. Il y a eu les deux grandes guerres où je me souviens, une fois je suis resté 8 heures à l'antenne en improvisation totale. Il y a eu des improvisations le lendemain du 11 septembre.
Et comment vous faites pour savoir que vous n'êtes pas dans le faux, enfin, etc. Comment vous fonctionnez? Parce que moi, ça m'impressionne vachement.
Ben, m'intéresser aux choses, essayer de les raconter. Bon, moi, j'ai été journaliste parce que j'étais curieux, comme vous. On est journaliste parce qu'on est curieux. On a envie de raconter des trucs. Et donc, pour être curieux, il faut se renseigner soi-même, etc. Lire pas mal. Et être à l'antenne. Et à un moment, il pouvait se passer n'importe quoi pendant le journal de 13h. Le présentateur du 13h est censé réagir à n'importe quoi à tout moment. C'est ce que j'ai fait pendant
ce qu'on fait à la radio aussi, effectivement. Et alors, cette personnalisation de l'information qui découle du fait que vous êtes vous-même et que vous posez vos coups de gueule quand ça vous vient, vous donnez votre opinion aussi. Est-ce que c'est une autre manière de faire du journalisme? Parce que quand on va en école de journalisme, on apprend qu'il faut être neutre, etc.
Ah ben on est neutre, moi je suis neutre. Ce sont que des remarques de bon sens que je fais. C'est-à-dire que le journaliste, c'est un médiateur. Ce n'est pas forcément un relais de pouvoir. Ça n'est pas un relais de pouvoir.
Un journaliste n'est
pas un relais de pouvoir. Je ne suis pas là pour répéter ce qu'a décidé le président ou le premier ministre, etc. Je suis là pour être entre le président et M. Dupont qui prend son information. Donc je raconte les deux. Donc je vis au même rythme. Quand un ministre dit quelque chose que je ne comprends pas, je dis que je ne le comprends pas. Je dis à l'antenne que c'est incompréhensible.
C'est très rare les journalistes qui font ça. Moi je le fais, j'en connais quelques-uns.
Je remercierai jamais CTF1 de m'avoir laissé cette liberté.
Oui. Ce qui fait votre originalité, votre succès aussi. On se répond à la question de tout à l'heure.
Le journal, quand je suis arrivé, il y avait 2 millions de téléspectateurs avec Yves Mourouzi. Au plus fort du journal, avant l'arrivée de la TNT, on était à 7 millions à peu près, 7-8 millions.
C'est énorme.
L'un des plus gros journaux du monde. Après, on est toujours l'un des plus gros journaux du monde. Aujourd'hui, Marie-Sophie est toujours aux alentours de 5 millions. Donc ça reste l'un des plus grands, l'un des journaux les plus puissants d'Europe, comme quand je suis parti l'année dernière. Donc l'audience se maintient, c'est superbe, c'est formidable. Ça reste un journal à 40-41% de part d'audience. Et c'est unique, et c'est pour ça que je suis fier de tout ça.
Vous avez toujours voulu être journaliste, Jean-Pierre Pernaut, c'est une vocation chez vous ?
Je sais pas, quand j'étais petit, je voulais être curé, et un jour, le curé de mon village s'est cassé une jambe en fermant ses volets. Et comme il s'est cassé une jambe en fermant ses volets, j'ai trouvé que c'était un métier trop dangereux, donc j'ai voulu être journaliste.
J'adore. Donc après 33 ans de télé, je le disais, 8500 journaux présentés, dont 7000 à 13h, vous avez quitté le journal l'année dernière, et puis vous avez écrit un livre aussi, 33 ans avec vous, qui est sorti chez Michel Lafon en février dernier. Ce livre, est-ce que c'était pour mieux tourner la page? Pourquoi vous avez écrit ce livre? Pour garder le contact?
Pour raconter un petit peu, parce que c'est génial, 33 ans, c'est quand même une aventure dont je suis très très fier. Donc j'ai voulu raconter aux gens un peu les coulisses de ça. Tout le monde me disait, mais pourquoi tu arrêtes Jean-Pierre? Attends, ton journal, l'audience est merveilleusement belle.
C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter quand ça va bien.
Mais voilà, j'étais troisième personnalité la plus populaire de France derrière Goldman et Omar Sy, je crois bien.
Pas mal.
J'étais numéro 3 dans le sondage du JDD, donc tout va bien. Présentateur préféré des Français. Mais pendant le premier confinement avec ma femme, je me suis dit qu'on était bien à la maison quand même. Et que c'était bien de se réveiller un petit peu plus tard le matin et d'avoir un peu moins de poids sur la tronche. J'ai 71 ans. L'envie peut-être de ne pas avoir cette responsabilité quotidienne, de vivre à un autre rythme. Et TF1 m'a donné la possibilité...
Ça a révélé des choses, ce confinement.
Ouais. Et TF1 m'a donné la possibilité de continuer à travailler avec l'émission sur LCI, avec des magazines grands reportages.
Un
comme
truc
celui,
plus
comme
léger,
celui
quoi.
18,
qui vous permettent aussi de vivre autrement.
Un petit peu différent, voilà. Ouais. C'était une vie formidable et j'en suis très heureux.
Et alors Jean-Pierre Pernaut, il y a un truc qui tourne sur le web, problème, c'est que vous avez dit avoir des ambitions politiques dans le futur chez TPMP. Est-ce que c'est vrai, ça? Vous
écoutez, y pensez sérieusement? Écoutez, on me demande aujourd'hui, Jean-Pierre, est-ce que vous avez envie de faire de la politique?
Ouais.
J'ai répondu à Hanouna, et pourquoi pas? C'est tout, qu'est-ce que je vous dise d'autre?
Mais où est-ce que vous avez envie d'être président de la République, Jean-Pierre Pernaut?
Mais pourquoi pas?
D'accord.
Je sais pas.
Mais vous avez envie?
Mais non.
Il faut avoir envie pour y aller quand même.
Hein.
Vous
envie.
Qui venez d'arriver. Voilà.
Non, je rigole en fait quand on dit ça. Vous avez retenu ça. En fait, c'est une plaisanterie. C'est vrai que la vie politique, c'est un métier très différent de celui de journaliste.
Vous pourriez faire un truc en région, non, justement?
Oui, peut-être un jour, mais on ne ferme jamais les portes. Mais je pense que c'est un métier, et président de la République, c'est un métier tellement sérieux que les saltimbanques ne peuvent pas aller là-dedans.
Qu'est-ce que vous en pensez, justement, du travail de notre président de la République et de comment il gère cette crise qu'on traverse et la manière...
Ah ben, je ne voudrais pas être à sa place. Je peux vous dire qu'on a quand même lu entre les gilets jaunes et la Covid.
Il y a quand même eu
une période un peu délicate. Après, il y a des gens qui n'apprécient pas. Il y a des choses... Moi, je ne vous dirai pas ce qu'elle est mon opinion. La seule chose que je peux vous dire d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est né au même endroit, à peu près. Donc, il est d'Amiens, comme moi. Donc, il peut être qu'un mec bien, non?
Judith Belair qui reçoit Jean-Pierre Pernaut. C'est excellent. Et c'est sur Sud Radio. Eux aussi, ils sont excellents. Je parle de Philippe David et Marilyn Hérault. C'est maintenant qu'on les retrouve dans le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Philippe David, Marilyn Hérault.
Bonjour Philippe, bonjour Marilyn.
Bonjour John, mais quel accueil.
Bonjour John, vous dites que nous sommes excellents. Ouais. Je vais vous faire du Louis de Funès dans la folie des grandeurs. John, flattez-nous.
Ah mais j'ai envie de faire ça pendant des heures. Moi,
c'est mon plaisir à moi.
Monseigneur est beau. Monseigneur est très beau. Mais là, vous ne me flattez pas.
Je vais revenir demain s'il nous présente de la même façon.
Ah bah oui, il faut revenir demain. Et même après-demain. Et même après-demain. Et même jusqu'à vendredi.
Je serai là. Bonjour Philippe.
Bonjour ma chère Marine. Et rebonjour mon cher John. On a un menu, je crois... copieux, oui. Ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors déjà, on a deux questions du jour à vous poser aujourd'hui, notamment concernant les urgences dans les hôpitaux. Dès le 1er janvier 2022, il y a un forfait patient urgence, le FPU, qui sera mis en place pour chaque passage aux urgences, non suivi d'une admission. Et on vous pose cette première question sur nos réseaux sociaux. Comprenez-vous la mise en place du forfait patient de 20 € à régler aux urgences à partir du 1er janvier? Pour l'instant, vous êtes 76% à voter non pour ce forfait patient. Et puis aussi Jean Castex, dans l'actualité du jour hier, qui a annoncé les nouvelles mesures pour lutter contre le Covid avec la montée du variant Omicron, comme par exemple le délai de la troisième dose réduite à 3 mois. Est-ce que ces mesures, selon vous, sont efficaces pour freiner l'évolution du Covid? Et pour le moment, 97% d'entre vous dites non.
C'est un score brejnevien, ça. C'était la fin de l'URSS il y a 3 jours, les 30 ans de la fin, mais là, c'est un score brejnevien.
Exactement. Donc, on continue d'attendre vos réactions par téléphone, 0826-300-300, et sur nos réseaux sociaux, Facebook ou notre compte Twitter. Et sinon, plein de choses dans la prochaine demi-heure.
Ah ben, on va commencer déjà par parler écriture inclusive.
Quand on vous parle, on vous dit elle, pas yel. Non, moi, j'aime bien qu'on m'appelle mademoiselle déjà. Je suis à l'ancienne.
Mes hommages, mademoiselle. Et on va en parler avec Bernard Carayon, maire de Lavore dans le Tarn, qu'on connaît bien sur Sud Radio, parce qu'il a fait voter par son conseil municipal un bannissement de l'écriture inclusive. Je vous voudrais dire en latin, aléa jacta est.
Ah, très bien.
Mais comme disaient des proches, aléa jacta est à la gare de l'Est, aléa jacta ouest à Montparnasse aussi. J'adore cette citation de des proches. Ensuite, on partira pas à l'ouest, mais au sud-ouest pour prendre la direction d'Air-sur-Adour dans les Landes, ma chère Marilyn.
Je vais vous faire découvrir un artisan pâtissier et chocolatier, Alexandre Mallet, qui est à Air-sur-Adour avec un parcours incroyable et on va se régaler.
On parlera des sites pornographiques sommés par le CSA de bloquer leur accès aux mineurs. Aujourd'hui, on parlera de plein d'autres choses. On aura Vladimir Fedorovski. Les voitures, il n'y en a plus qu'une seule made in France dans les plus vendues en France. Livre, on parlera de la dynastie des Windsor, la saga des Windsor aux éditions Perrin.
Et un cadeau aussi, un cadeau à vous faire gagner avant la fin de la matinée.
Un excellent repas, un déjeuner pour deux
dans un endroit d'exception.
Et on aura notre débat qui portera évidemment sur les mesures proposées par Jean Castex. Et on aura 4 débatteurs aujourd'hui, médecins, producteurs de spectacles, économistes de la santé et restaurateurs.
Plein de belles choses et des sujets passionnants jusqu'à 10h dans le Grand Matin. Il est 6h56 sur Sud Radio. À tout de suite.